this his respect for being so wild? Hardly. He treats me like a rare and precious jewel. And he goes through the day proud of the fact that with me, he is the world's most imaginative lover. Men pick amazing places for sexual adventure. The wildest adventure proposed to me was in a bathtub we would fill with Jell-O. All I could think of was how many boxes it would take. What would be the most alluring color?
Bonsoir, chère auditrice et cher auditeur. Quel plaisir de vous retrouver ce soir pour Hot Lips sur Radio Panique au 105.4. Et ce soir, nous allons faire des lectures entrecroisées entre Camille et moi. Et je commence avec Christine Aventin, qui a écrit Red Shoes et qui est publiée aux éditions Malmström. Chromosome Q. Il y a des femmes hétéros qui détestent la pénétration. Il y a des hommes hétéros qui aiment être sodomisés. Il y a des PD qui ne s'enculent pas. Il y a des guignes qui se fistent jusqu'au coude. Il y a des hommes impuissants qui savent mieux faire sans érection que d'autres font avec. Il y a des femmes qui fantasment d'avoir une queue et d'autres qui voudraient n'être qu'un immense orifice. Il y a des mecs mariés qui ont des aventures clandestines avec des gays. Il y a des sodomités clitoridiens. Il y a des lesbiennes qui ont eu 2 maris et 6 enfants. Il y a des femmes hétéros qui ont fréquemment des rapports avec d'autres femmes hétéros au cœur de soirées arrosées. Il y a des gens pour qui le sexe de l'autre a moins d'importance que son âge, ou que sa race, ou que sa corpulence, ou que son goût pour une pratique particulière. Il y a des lesbiennes qui couchent avec un homme à l'occasion, des PD qui rentrent parfois avec une fille. Il y a de la peau, il y a du cuir, il y a du latex, il y a des toys pour rire ou pas. Il y a des gants, des digues, des capotes. Il y a des goûts, des couleurs et des jeux. Il y a des travestis hétéros et des homos virils. Il y a des cuirs, il y a des dragues, il y a des transsexuels, des transgenres, des transvestis. Il y a des intersexes, c'est-à-dire des femmes avec une bite ou des hommes avec un vagin, qui peuvent aimer les hommes, les femmes ou les deux. Il y a les hermaphrodites, des androgynes, des viragos, des hommes efféminés. Il y a des pertaches, il y a des sexuels, il y a des insatiables dans tous les groupes et des abstinents dans chacun d'eux. Et il y a surtout le droit de changer autant de fois que l'on veut d'identité et de préférence.
Porno-terrorisme de Diana G. Torres. Née à Madrid en 1981, Diana G. Torres, diplômée en philologie hispanique à l'Université de Barcelone, est une artiste multidisciplinaire utilisant la performance, la poésie, la vidéo et la pornographie et la post-pornographie. Elle organise des shows où le public est poussé, d'une certaine manière, à l'implication émotionnelle, politique et sexuelle. Depuis 2006, son travail s'axe surtout sur le porno-terrorisme. N'importe qui ayant envie peut être porno-terroriste. Cela n'a rien de spécial, ce n'est pas un don, le porno-terrorisme pouvant aussi se projeter dans les choses simples et quotidiennes. Je ne le dis pas pour ôter du mérite au sujet. Cela ne signifie pas que l'on doive se passer d'efforts et de travail. Simplement, il n'est pas nécessaire d'être excessivement pervers, ni d'avoir des prédispositions pour s'adonner à l'exhibitionnisme, la transgression, le sexe ou la combativité. Plus encore, je dirais sans peur de me tromper qu'il peut se développer et s'apprendre comme tout autre type de pensée, de stratégie ou de langage. Une seule chose est indispensable, l'inconformisme. Même la rage n'est pas vitale. Un acte porno-terroriste peut être chargé d'humour et assez ludique. Un des droits fondamentaux de toute personne est la découverte de sa sexualité, de manière progressive, sans attendre l'arrivée du mariage ou la rencontre avec la personne avec qui l'on va interagir sexuellement. Un des pires maux causés par l'Église à l'humanité a été de pénaliser la masturbation et de la qualifier d'acte impur. Le sexe est une nécessité de base, Son absence peut causer de graves troubles. L'Église s'est employée quasiment depuis ses débuts à convertir le peuple en anorexique sexuel. Ceci est un crime sans aucun doute. Dire à un enfant qu'il finira en enfer parce qu'il se touche ou effrayer une fille sur les conséquences de la perte de sa pureté sont des actes criminels. Aucune loi n'a l'air de faire quoi que ce soit pour y mettre un terme. Sortir nos branlettes dans la rue est donc un acte très légitime. L'action phare est sans doute le porno-assaut aux édifices religieux et gouvernementaux. On avait planifié un voyage en Italie avec une équipe de copines afin de réaliser une action à Rome. Chiara a eu une illumination divine ou une illumination satanique. Son idée était de planquer des magnétophones avec des bruits de gémissements et de partouzes dans la basilique Saint-Pierre du Vatican. Nous regardâmes en détail comment s'y prendre sans trop de risques et un plan simple fut mis en place. La première étape fut d'enregistrer des gémissements, des gifles et des parties de baise dans deux magnétophones à bas prix, en laissant quelques minutes de silence au début, histoire d'enclencher la cassette sans se faire repérer et puis aussi pour avoir le temps de filer. Chiara plaça la machine infernale dans l'autel de la Vierge du Saint-Secours et moi directement dans la tombe de Pie XII. Les autres filles attendirent sur place pour filmer le tout et l'autel se mit à gémir. Lorsque les gens s'approchèrent pour voir de quoi il retournait, peut-être était-ce un nouveau miracle, un homme vêtu de noir qui avait l'air de travailler ici trouva le magnétophone et l'éteignit. Comme j'étais sur les nerfs, je ne réussis pas à enclencher le magnéto de la tombe de Pie XII, mais on le récupéra pour le mettre la semaine suivante dans les locaux de Montadori. C'est une maison d'édition, une propriété de Berlusconi, à Venise, cachée entre les guides touristiques. Ce fut la première action de porno-assaut acoustique. L'idée en soi peut se développer et se réaliser partout, pas la peine d'aller jusqu'au Vatican. Les connards sont tout à tous les coins de rue. Mais je dois reconnaître que ce fut un vrai honneur de pouvoir le faire dans la Cité Sainte. Des cris de plaisir surgissant au milieu de la tanière des pères de la répression sexuelle, ça ne manque pas de symboles. Tous ces cris étouffés qui s'entendent, ceux de toutes les âmes condamnées en enfer, passant leur temps à baiser et à avoir des orgasmes scandaleux, profitant du sexe qui leur furent refusés. Les gorges rognées, les corps brûlés et torturés, comme dans une procession d'âmes errantes, libérant leur obscène vengeance. Ce fut un vrai flip et un vrai plaisir.
Amandine D. à main nue. De quoi avons-nous honte ? Lance l'une de nous. Sa question est suivie d'un long silence. Le temps d'encaisser et de prendre des forces. L'une d'entre nous prend la parole, puis une autre et encore une autre, la gorge parfois nouée, les mots éperlués d'apparaître à la lumière, eux qui se planquent depuis si longtemps. Beaucoup partagent ce qui les entrave et les exclut de ce vaste festival de la baise heureuse. Honte d'une enfance abusée, honte de nos corps, honte de nos désirs, honte du trop, honte du pas assez. On ne réagit pas aux paroles des autres, on les reçoit. C'est intense pour celle qui écoute, intense pour celle qui parle, qui a le courage de s'entendre. D'autres sont incapables de partager, mais elles reçoivent. Plus tard, peut-être, parviendra-t-elle à se dire à leur tour. Il ne s'agit pas de confidence, nous ne sommes pas des amis, nous sommes des alliés. Nous parlons pour que nos sexualités cessent d'être du silence, trop de silence. Je réalise que certaines femmes sont soulagées de tourner le dos au sexe et de mettre fin à cette pression insupportable. Ne pas baiser comme une ultime façon d'être libre. Des magazines féminins jusqu'au discours féministe, cette injonction du sexe à tout prix et surtout à jouir comme preuve définitive de notre émancipation. Une morale qui ne dit pas son nom et oblige à escamoter sa vérité. Et quand on jouit, encore faut-il jouir de la bonne façon, car nos fantasmes nous encombrent. Ça veut dire quoi de jouir en s'imaginant pute ou salope ? Cela signe-t-il notre défaite ou notre victoire ? Vaguement trahis par nos inconscients, la faillite de nos imaginaires, nous rêvons à des fantasmes 100% éthiques, où notre morale domine, nous voudrions gendarmer nos désirs, être purs, nous détestons nos recoins obscurs, comme si notre engagement politique n'était qu'une posture. Et voilà, nouvelle rasade de honte. Mais dans nos fantasmes, n'est-ce pas toujours nous, les chefs? À force de rêver à du cul politiquement correct, on s'empêcherait presque de jouir. Quand cesserons-nous d'avoir peur de nous-mêmes?
J'ai connu ma première véritable expérience sexuelle à 12 ans. Avant ça, vers 7 ans, j'avais bien un peu entamé mon apprentissage avec des copines, mais sans dépasser le stade des frôlements. Ce n'est qu'avec Céline que c'est allé plus loin. C'était la fille la plus populaire de la classe. Elle était toujours très à l'aise, très drôle, enjouée et surtout très sûre d'elle, ne craignant pas le rapport de force. Nous sommes vite devenus meilleures amies et c'est comme ça que les choses ont commencé. On allait souvent à la maison de l'une ou l'autre pour faire nos devoirs ensemble et on s'enfermait à clé. Sauf que bien entendu, notre intérêt se porta en réalité sur d'autres sujets que l'histoire ou que sur la géométrie. Nous parlions surtout des garçons en évoquant ceux dont nous étions secrètement amoureuses. Et de fil en aiguille, nous avons instauré une sorte de petit jeu, une mise en scène qui consistait à se faire passer à tour de rôle pour le garçon aimé. Ainsi, pendant la période où j'ai par exemple été amoureuse de Cédric, Cédric Vignon, son nom il m'est revenu d'un coup, Cédric. Eh bien, Céline, elle se faisait passer pour lui et elle prenait des postures de garçon. Et moi, je jouais à celle qui a du culot et qui ose s'approcher de lui. Et nous inventions alors une sorte de petite conversation badine, finalement un peu comme au début des films érotiques, tu sais. Et avant de finir par nous avouer notre flamme et nous embrasser fougueusement, mais en gardant une main devant la bouche. Parce que nous ne voulions pas que nos lèvres se touchent, pour de vrai. Et puis un jour, c'était à mon tour de jouer son amoureux à elle. Sauf qu'au lieu d'en rester à des simples baisers, nous avons voulu expérimenter de nouvelles sensations. Alors ça a commencé par le fait de s'asseoir l'une sur l'autre, en restant habillées, pour mimer l'acte sexuel. Mais ensuite, nous nous sommes embrassés, ça et là, sur le corps, sur une main, un bras, le cou. Et puis une fois, Céline s'est enhardie à m'enlever ma culotte et elle m'a embrassée sur le sexe. J'étais dans tous mes états. Elle m'a ensuite proposé que je lui fasse pareil. Et si j'ai d'abord hésité parce que l'odeur, ça me dégoûtait un peu. Bon, j'ai fini par accepter en essayant de faire comme elle. Et ce qui est amusant quand j'y repense, c'est que même si au fil des mois on a fini par s'embrasser, se lécher, se caresser sur tout le corps, eh ben on a quand même toujours gardé nos mains devant la bouche pour simuler les baisers amoureux. C'est drôle ça, non? Comme les prostituées qui acceptent de tout faire sauf embrasser. Et on faisait ça de plus en plus souvent. Au début de notre petit jeu, on observait toujours le même rituel qui consistait à se faire passer pour un garçon, mais au bout de quelques minutes, c'était même plus nécessaire, hein, le rituel. Et pour être honnête, je ne pensais plus réellement à mon amoureux pendant que nous nous caressions. Je crois que nous étions complètement absorbés par notre recherche de plaisir. Je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire que j'ai vraiment joui, mais j'ai clairement eu des frissons et des étourdissements. Ce qui nous retenait sans doute de nous lâcher autant que nous l'aurions voulu, c'est que nous devions rester très silencieuses pour ne jamais attirer l'attention de la maisonnée. D'ailleurs, je n'ai jamais trop su si nos parents se sont pas doutés de quelque chose. Une fois, nous avions oublié de fermer la porte dans la chambre de Céline. Nous étions toutes les deux adossées à son lit Et j'étais en train de lui donner du plaisir, ma main cachée sous un gros livre de géographie, quand sa mère, elle est entrée à l'improviste. Je suis restée parfaitement immobile, n'osant pas retirer mon doigt de la chatte de Céline, me contentant de tourner la tête vers sa mère pour répondre maladroitement à je ne sais plus quelle question, tout en priant pour qu'elle ne se rende compte de rien et ne s'approche pas de nous. Elle est heureusement repartie assez vite, peut-être justement parce qu'elle avait senti notre malaise. Ceci dit, une bonne partie de notre excitation venait précisément du fait que nous devions nous cacher. Quand nous avions le champ libre, nous nous léchions le sexe à tour de rôle. Mais nous disposions généralement de peu de temps et nous nous contentions alors de nous masturber l'une l'autre. C'était par exemple devenu un de nos jeux préférés à l'école pendant la récréation. On allait se retrouver en douce dans les toilettes, en faisant bien attention à ne pas se faire repérer par les autres filles au moment d'entrer et de sortir du même cabinet. Et puis on se faisait du bien, un petit coup, pendant 5 minutes. Franchement, c'était délicieux. Et quand on ressortait de là, tout émoustillé, on frissonnait de peur et d'excitation aussi à l'idée que les autres puissent comprendre ce qu'on venait de faire. Et rien qu'à l'odeur du cul qui devait forcément, l'odeur de cul qui devait émaner de nous. Un de mes souvenirs les plus drôles de cette époque, c'est la fois où Céline était en train de me lécher, que je me suis soudain aperçu qu'elle avait le nez et les lèvres barbouillées de sang. Déjà, affolée, j'arrête tout, puis je commence à comprendre qu'il doit s'agir de mes premières règles. J'étais complètement bouleversée, n'arrêtant pas de dire à Céline à quel point ça a changé tout, que je me sentais maintenant, je suis si différente, je suis tellement plus femme, tu vois. Avant de réaliser que du sang continuait à couler abondamment sur ses lèvres, elle s'était blessée au nez et son nez était en train de saigner. Après ça, franchement, elle s'est bien foutue de ma gueule les jours qui ont suivi. En me redisant à quel point, ouais, tu sais, t'es hyper différente, hein, t'es vraiment devenue une femme. Et puis, bon, les choses se sont gâtées entre nous. Déjà, j'ai fini par comprendre qu'elle avait eu d'autres relations avec d'autres filles avant moi. Et ça m'a choquée parce que quand même, on avait 12 ans, quoi. Et ça a même commencé à m'inquiéter quand, au cours d'éducation sexuelle, on nous a mis en garde contre les MST et le sida. Mais surtout, elle s'est mise à séduire les garçons dont j'étais amoureuse. Cela même qu'elle avait imité lors de nos jeux érotiques et que je n'avais jamais osé aborder dans la vraie vie. Eh bien, Céline, elle osait à ma place. Et ça m'a complètement déstabilisée. Je me suis sentie totalement et horriblement trahie. Nous avions donc officiellement rompu. Et quand pour finir, elle a eu ses premières règles avant moi, l'humiliation a été complète. Mais tu vois, malgré cette fin un peu dure, je conserve vraiment un souvenir merveilleux de toute cette période. Céline et moi, nous nous sommes mutuellement appris tellement de choses. Je pense que c'est grâce à elle que j'ai appris à connaître mon corps et la manière de prendre du plaisir. Nous nous sommes offert ça, l'une à l'autre.
Lisette Lombé, Vénus Poetica. Tu as presque 13 ans. Il a 18 ans et une BMW rouge. Tu sais ce qui arrive aux filles de 13 ans qui montent dans des BMW rouges. Tu frimes, tu n'es pas amoureuse de lui. Celui que tu aimes, c'est Hakim. Pour Hakim, tu t'es mise au skateboard. Mais comme Hakim ne t'aime pas, tu montes dans une BMW rouge. Il a 18 ans, il est pressé, il se gare dans un parking. Il fait glisser sa fermeture éclair, abaisse son froc et te demande de lécher son sexe à travers le coton blanc de son slip. Tu t'exécutes. Son sexe est dur, le contour absorbe ta salive. Il sort son sexe de ton slip trempé et te demande de le prendre en bouche. Tu t'exécutes. Il va venir vite, qu'il dit. Tu fais comme si, il fait comme si, vous faites comme si. Son sexe n'était pas minuscule. Un cadeau, c'est un cadeau. Pourquoi ne peuvent-ils pas accepter d'être juste sucés sans proposer quelque chose en retour? Comme s'ils se sentaient coupables d'avoir éjaculé à la va-vite sur ta langue. Tu adores sucer. Tu ne te sens pas diminué dans cette position. Sucer, tailler des pipes, bouffer des queues. Tu es né avec une bouche en forme de sexe. Lorsque tu avais 11 ans, ton orthodontiste a prononcé les mots « lèvres lipues ». Tu as demandé à tes parents « C'est quoi les lèvres lipues ?» Tu ne te souviens plus. de leur réponse. Tu observes cet homme qui se repaît des va-et-vient de son sexe sur ta langue. Il glisse un index sous ta lèvre supérieure, l'étire, la retrousse et découvre ta gencive, luisante et pourpre. Tu comprends ce besoin de te défigurer pour faire croître son excitation. Tu ne juges pas. Des gouttelettes de bave s'échappent de l'écartèlement de ton sourire. Tu fixes son nombril. Son nombril te rappelle que cet homme a été un nourrisson, que vous n'êtes fondamentalement différent. Vous n'êtes fondamentalement pas différent l'un de l'autre, qu'il a une mère. Tu penses à la tienne de mère. Ta mère déteste sucer.
J'ai une théorie sur les hommes. Toujours regarder comme un mec caresse un chat. Un homme qui est attentif aux attentes de son chat, qui le caresse comme il faut, en fonction des mouvements que fait l'animal et de ses petits coups de tête pour demander des câlins, tu peux être quasiment sûr que c'est un bon amant. À l'inverse, un mec qui réveille un chat pour le caresser d'office ou qui lui frotte le sommet du crâne alors que le pauvre matoutant désespérément de la naissance de sa queue, il y a peu de chances d'être attentif au plaisir de l'autre. Bon, comme je n'applique pas toujours mes propres théories ou qu'il m'arrive de les mettre à l'épreuve, il m'est arrivé une fois de coucher avec un mec qui tapotait vaguement le dos de son chat, genre « vite fait, bien fait, vas-y, maintenant dégage ». Eh bien, ça a fait que me confirmer que ma théorie était infaillible.
Alors, c'est un poème très vieux de Louise Labbé. Elle a vécu entre 1524 et 1566. Et elle écrit « Baise mon corps, rebaise-moi et baise. Donne-moi un de tes plus savoureux, donne-moi un de tes plus amoureux. Je t'en rendrai quatre plus chauds que braise. » Là, te plains-tu ? Ça, que ce mal j'apaise, en t'en donnant 10 autres doucereux. Ainsi, mêlant nos baisers tant heureux, jouissons-nous l'un de l'autre à notre aise. Leur double vie à chacun en suivra, chacun en soi et son ami vivra. Permets, m'amour, penser quelque folie. Toujours suis mal, vivant discrètement, et ne me puis donner contentement si hors de moi ne fait quelque saillie.
Je vais vous lire un extrait de Fist de Marco Vidal. Je ne connais pas Marco Vidal, mais c'est un professeur de philosophie, un écrivain, un critique, et il a choisi ce pseudonyme Marco Vidal pour affronter plus librement le public. Son livre donc s'appelle Fist. Et c'est un extrait sur les catacombes. Les catacombes à San Francisco sont un des monuments du fist-fucking. Depuis longtemps disparues, elles ont aussi par chance leur monument, l'étude de l'anthropologue Gail Rubin, sobrement intitulé « Les catacombes, temple du trou du cul ». La première fois que j'entendis parler des catacombes, ce nom éveilla en moi des images de ces souterrains peuplés de tombes de la Rome antique, où les premiers chrétiens se réfugiaient pour échapper à la persécution de l'État et pratiquer leur religion hors la loi aussi secrètement qu'il leur était possible. Le club privé de l'ancien quartier hispanique est lié à la vie et à la mort d'un homme, Steve McKeown. On connaît peu de choses sur ce héros de la révolution des mœurs. Débarqué adolescent à San Francisco au début des années 60, il a une trentaine d'années au cœur de la décennie suivante. À 600 km de là, naît Drummer. Harcelé par l'administration et par la police de Los Angeles, le magazine Cuir s'installe dans la ville la plus libérale de la côte ouest. Jack, son rédacteur en chef, est de la génération de Steve. Les deux hommes partagent les mêmes goûts, les mêmes partenaires. Jack travaille bientôt avec Steve, auquel il confie le décryptage des bandes d'interviews de sa revue. Amateur de plaisirs insolites, Steve fréquente les lieux de la contre-culture en pleine effervescence après les événements de Christopher Street. Il vit depuis peu avec Michael et décide d'emménager pour son nouvel amant le sous-sol de la bâtisse où il habite, au sud de la 20e rue. Aménagement d'abord réduit à un modeste donjon, auquel s'ajoutent rapidement deux salles, et c'est ainsi que le 7 mai 1975, les catacombes ouvrent au public. Rumeur est dans le club dédié à la pratique favorite de Steve attire un public d'amateurs qui afflue des quatre coins des États-Unis et bientôt du monde entier. En moins d'un an, le nid d'amour privé est devenu la mecque du fist-fucking. Une paire de lions surplombait les marches du basement, rapporte Jack. Le calme viril de ces deux gardiens de ciment reste d'ailleurs le meilleur symbole de ces catacombes du sexe. Alors, pour être invité aux soirées, il fallait être sur la liste de Steve. Pour être sur la liste de Steve, il fallait être recommandé par une de ses connaissances. Et souvent, il fallait également passer un entretien avec Steve. Tout était parfaitement résumé par l'affichette placardée sur la porte. « Si tu n'as pas appelé avant, inutile de sonner maintenant. » On arrivait entre 21h et 23h. Un homme, nu et souriant, vous ouvrait la porte et vous introduisait dans une petite antichambre qui protégeait la pièce principale du froid et des regards indiscrets. On accédait ensuite à la pièce principale et on montait au poste de commande de Steve toujours au bout du bar. Là, on se faisait enregistrer et l'on offrait le prix de l'entrée et ses hommages au maître de maison. Et puis, on saluait ses amis, on prenait des drogues, on terminait sa manucure avant de passer progressivement du monde quotidien à l'ère de jeu. La suite nuptiale et le donjon, deux pièces à l'arrière du bar, où il n'était permis ni de fumer, ni de manger, ni de boire. L'arrière n'était pas dédié à la sociabilité, l'arrière était dédié au sexe. La suite nuptiale devait son nom à une union particulièrement mémorable qui était commémorée par une plaque en cuivre d'ailleurs, et qui avait été consommée sur l'immense lit, un lit doté d'un matelas à eau et surmonté de quatre montants dominant la pièce. Tout près du lit à eau, il y avait des équipements que Steve aimait le plus. Il s'agissait de la partie supérieure d'un lit d'hôpital recouverte d'un matelas en mousse et suspendu au plafond par des chaînes et des gros ressorts. Il y a des étrivières en cuir où le passif pouvait poser ses jambes et l'ensemble pouvait aussi monter et descendre et se balancer d'avant en arrière. Steve aimait s'y asseoir, la main enfouie dans le cul de son favori du moment, hurlant et ululant tout en se balançant. De haut en bas, de bas en haut.
Amandine D, à main nue. Je veux mouiller. Il y a l'eau des larmes et puis cette eau joyeuse glissante qui invite. Magie de cette mécanique, même pas sur volonté, juste quand le corps décide. Le sexe bâillonne ses angoisses, la rassemble tête et corps. Sa géographie se bouleverse, son anatomie s'invente, ses contours fondent. À leur vitesse, ses cellules forment un cortège et s'avancent au même endroit pour faire un feu de joie. Elle ne sait jamais quand l'orgasme viendra, ni quel visage il aura. Il explosera, soudain, au détour d'une caresse, d'un geste, d'une pensée. Jamais de recette miracle ni de protocole, elle sent juste quand l'orgasme est proche, tout proche. Après, difficile de ne pas se risquer à des métaphores de feu, volcans et artifices, ou mieux encore, la mèche de dynamite des dessins animés de son enfance, qui n'explose jamais quand on l'attend. Ensuite, quand les corps reposent, sa vulve palpite encore quelques secondes. Ce deuxième cœur. ils ont le temps d'essayer du sexe, de rater, de rire, de recommencer. Le sexe avec une peau qu'on connaît, une bite qu'on aime, une odeur qui abrite. Cette fois, le plaisir de l'autre compte. Elle garde les yeux grands ouverts, voir ce qu'ils font à leur corps. Juste avant de jouir, je ferme les yeux. Je rentre en moi où il n'y a plus d'images, seulement des couleurs. Des images de films tapissent encore leur intimité. Dans l'obscurité, ils obéissent encore. Leur imaginaire pollué par ces images trop vues au cinéma. Ces corps lisses et réguliers qui font l'amour. Scénarios dont l'humour et la maladresse sont toujours absents. À moins qu'ils ne constituent le ressort comique du film. Faire l'amour est une chose sérieuse. On ne perd pas de temps en préliminaire, tant on se désire. La femme ferme les yeux et hop, pénétrée. L'équation pénétration, jouissance marche à tous les coups. Et on jouit toujours en même temps. Ensuite, on s'appuie sur l'oreiller, les cheveux collés aux tempes, et l'homme allume une cigarette. Rien sur la deuxième chaussette qu'on s'escrime à retirer, le bouton sur la fesse droite, toutes ces fois où l'on se demande si l'autre a joui ou pas. Et enfin, le plus grand des mensonges, faire l'amour debout. On voit ça dans tous les films, mais dans la réalité, à l'épreuve de leur corps, les muscles tendus, ils perdent l'excitation à force de se concentrer. Ça ne rentre pas. Pourquoi ne la soulève-t-il pas comme dans une plume, comme au cinéma? Il tente, elle se hausse sur la pointe des pieds, et au moment où elle croit enfin y arriver, une crampe la pulvérise.
Bon, moi je reviens dans les catacombes. L'autre pièce des catacombes était le donjon. Le donjon, avec ses grosses poutres, ses poteaux en bois, ses miroirs sur les murs et sur le plafond. Ses lampes à gaz victoriennes qui ajoutaient une touche de mystère du 19e siècle à l'atmosphère ambiante. L'espace était maintenu aussi propre, sûr et chaud que possible. Les équipements étaient bien conçus et solides. Les surfaces étaient lisses. Rien n'était laissé au sol qui pût entraver votre passage. On n'avait pas à veiller à ne pas se cogner les pieds dans du matériel entreposé, à faire attention à des échardes sorties du bois ou à se demander si tel ou tel équipement supporterait le poids d'un corps. Les slings, les lits à matelas à eau, le lit d'hôpital et le dispositif de suspension donnaient le sentiment qu'on flottait, qu'on était en apesanteur. Le Crisco lubrifiait le trou du cul, il lubrifiait le corps entier, il lubrifiait les murs. Il lubrifiait le chemin qui menait vers des contacts lisses et faciles. Selon Gail Rubin, seul cet ensemble exceptionnel de conditions a permis une exploration des capacités sensuelles du corps rarement possible dans les sociétés occidentales contemporaines. Une image résume son propos, celle d'un homme, debout devant un sling, berçant doucement un autre homme, dont il tient la vie au bout de sa main. Le livre de contes de Steve Relève, le livre de contes de style de Steve révèle qu'en une soirée, on grillait aux catacombes pas moins de 300 serviettes, 8 mètres cubes d'eau et à raison d'une demi-livre par trou du cul et une vingtaine de kilos de Crisco. Au premier anniversaire du club, se pressèrent dans les trois salles de la 21e rue 250 paires de fesses. 250. Le rêve de Steve s'acheva brusquement le 28 août 1981. Steve et Fred s'étaient joyeusement amusés sur le lit à eau de la suite nuptiale quand, soudainement, Steve fut victime d'un arrêt cardiaque et mourut dans les bras de Fred. Inconsolable, Fred plongea dans la sidération et le deuil. Concrètement, les catacombes avaient vécu.
Lisette Lombé, Vénus Poetica. Il te demande pourquoi tu as acheté le dictionnaire des fantasmes, perversions et autres pratiques de l'amour. Tu lui réponds que tu adores apprendre des nouveaux mots. Hémétophilie, ophidicisme, salirophilie. il quitte la pièce. Tu regardes ta lampe de bureau, un presse-papier. Tu regardes le câble de ton ordinateur. Tu regardes ton agrafeuse. Tu regardes ta boîte de punaises. Tu regardes avec l'œil du fétichiste. Tu regardes et sur chacun de ces objets, tu imagines une belle giclée de sperme. Et un petit passage, parce que c'est d'actualité. À quelle distance doivent se tenir deux collègues pour qu'aucun de leurs collègues ne soupçonne qu'hier, ces deux-là ont couché ensemble pour la première fois? Est-ce que 18 cm est une distance suffisante? Un tout grand merci à Jean-Philippe qui est venu faire la technique avec nous ce soir au tout dernier moment. Un grand merci à Camille d'avoir participé à cette émission et un merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs. Et on vous retrouve le mois prochain. Bonne nuit.